Jet Li ou encore Jason Statham sur D17. Donc, très bonne soirée télé à toutes et à tous.
Ben, on fait hop, 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 et puis voilà.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique. Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes?
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct sur 48FM pour un nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour Caro.
Bonjour Guillaume, bonjour Anne-Marie, bonjour à tous.
Et salut.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour, bonjour.
Alors ça fait 3 semaines que vous ne nous avez pas entendu en direct, puisque la semaine dernière nous étions sur une émission spéciale à l'occasion du Tour de France du télétravail. Alors voilà, on vous a abandonné, on ne sait plus trop comment fonctionne le studio, donc je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas de bug technique aujourd'hui, mais nous allons essayer de faire une bonne émission quand même. Alors de quoi allons-nous parler? On va commencer avec toi Anne-Marie, de quoi vas-tu nous parler?
Vu l'heure à laquelle il est, je vais vous parler d'alimentation.
Ah, vous avez mangé avant, parce que maintenant on ne mange plus dans le studio, donc c'est fini. Donc, vous avez mangé avant, moi j'ai pas eu le temps, mais je mangerai pendant les pauses en sortant des lieux.
Exactement. Et toi Guillaume, tu vas nous parler de quoi?
Et ben moi je vais vous parler des prix Nobel 2014. Alors je vais vous parler de prix Nobel, oui c'est la saison, mais pour nos plus fidèles auditeurs, vous allez me dire qu'Aurélie en avait déjà parlé l'année dernière, mais oui, rassurez-vous, dans cette chronique je ne plagierai pas. Vous aurez directement l'extrait original. Ça, je me suis économisé
oui,
un peu de temps
que
de travail.
Tu vas nous donner les noms des différents prix Nobel.
Voilà,
et
on détaillera. On détaillera un petit peu les cocorico français et puis un peu savoir ce qui s'est passé dans cette promotion 2014.
Très bien.
Et toi, Caro, de quoi veux-tu nous parler?
Alors, je vais vous parler cinéma avec une petite, une petite revue de presse rentrée, un peu élargie, mais cinéma.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses sur la table. Il y a un tas d'informations.
Oui, donc, parce que je vous avais prévenu, je n'ai pas été très bonne élève, donc.
Il n'y a pas
grand chose d'écrit, mais.
Oui, mais en impro, tu te débrouilles très bien.
Je vais essayer, en tout cas.
Mais il y a plein d'infos, c'est ça. Il y a donc plein d'infos sur la table et dont on va pouvoir débattre tout à l'heure. On commence tout de suite avec Anne-Marie et c'est Caro qui pose la première question.
Moi je voulais juste dire pourquoi parler quand même de l'alimentation aujourd'hui, puisque aujourd'hui, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation, mais c'est aussi en France la journée nationale de lutte contre le gaspillage. Alors évidemment, on va penser aussi aux auditeurs qui vont nous réécouter lors des rediffusions sur Actuel et Lui le mardi ou le jeudi, ou bien qui vont nous écouter sur Internet. Ça sera peut-être passé, effectivement, le 16 octobre, mais que je vous rassure...
Mais la date de péremption va plus loin.
Oui, parce que le message, lui, est intemporel. Voilà. Alors, gâchis et mise en valeur des producteurs locaux sont donc au programme de cette chronique.
Un vrai bonheur. Et donc, Anne-Marie, on va commencer par un chiffre, c'est ça?
Si je vous dis 17 millions de tonnes, ça vous fait penser à quoi?
Je ne sais pas, peut-être mon poids dans quelques années.
J'ai bien peur que ce soit ce qu'on gaspille par an sur la planète.
Et tu as tout à fait raison, hélas, Caroline. J'aurais préféré que tu aies tort, mais c'est bien le poids de nourriture que la France jette chaque année aux ordures. C'est 17 millions de tonnes de nourriture, c'est énorme. Et en même temps, c'est peu face aux milliards de tonnes de gaspillage alimentaire estimé dans le monde. 1 milliard de tonnes par an. Donc jeté aux poubelles, soit un tiers de la production alimentaire mondiale qui part à la poubelle sans être consommée. Et tout ça dans un contexte dramatique où 82 pays, alors évidemment c'est une estimation, n'ont pas suffisamment de nourriture pour faire vivre l'ensemble de la population décemment. Parmi ces 82 pays, On retrouve la République démocratique du Congo, le Niger, Madagascar, le Mali, Togo, la Gambie, l'Éthiopie, la Guinée, l'Afghanistan. Enfin bon, je ne vous passe pas en revue les 82 pays, mais la liste est effectivement est énorme. Alors, véritable paradoxe entre ce que les pays riches gaspillent et le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, il y en aurait à peu près 870 millions. Mais revenons en France. Je vais vous poser une autre question. Savez-vous ce qu'on jette le plus ?
Je ne sais pas. Des produits emballés, non ? Tout emballé ? Non ?
Des fruits et légumes ?
Tu as raison. Parmi les aliments que l'on jette le plus facilement, environ 50% sont des fruits et des légumes. Viennent ensuite les restes des plats maison et les plats cuisinés. Alors là, je vais citer le ministère de l'Agriculture qui a envoyé un communiqué de presse. Pour un foyer de 4 personnes, 20 à 30 kilos par an de produits alimentaires consommés sont jetés, dont 7 kilos de nourriture encore emballée, ce qui représente un budget de plus de 400 euros. Là, ça fait mal quand même. Alors, je vais vous poser une autre petite question. Savez-vous qui gaspille le plus en France ?
Je ne sais pas.
Les collectivités ?
Alors là, c'est plus au niveau géographique.
Ah.
Je pense le milieu urbain.
Tu as raison. Alors, plus précisément, en fait, ce sont les Franciliens qui sont les plus gros gaspilleurs de nourriture en France. Au contraire, l'Auvergne, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Centre, la région Rhône-Alpes sont les régions françaises qui gaspillent le moins de nourriture, à peu près moitié moins que les Franciliens. C'est énorme. Alors, il faut peut-être y voir là un héritage laissé par nos ancêtres paysans qui ne gaspillaient pas les denrées alimentaires, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Après, ça, c'est mon analyse.
Il y a aussi les temps d'accès logistiques qui font que les produits sont plus frais, sans doute, dans les régions rurales où ils sont produits, que quand ils arrivent à Paris, où ils sont déjà, enfin, il y a déjà eu du transport et tout ça. Donc, ça peut aussi jouer.
Après, je pense que c'est aussi au niveau des habitudes.
Des modes de vie, oui.
Des modes de vie. Et puis peut-être que les personnes vivant dans des départements ruraux ont un rapport différent avec les aliments, puisque certains cultivent des légumes, ce qui n'est évidemment peut-être pas le cas d'un Parisien qui va vivre dans un appartement ou dans un studio de 10 mètres carrés aussi, quoi. Alors évidemment, le fait de gaspiller, c'est dramatique, mais cette situation peut changer si on s'y met tous. C'était un peu l'objet de l'émission sur le gaspillage alimentaire proposée par M6 dernièrement, je crois que c'était le 7 octobre. Je ne sais pas si vous l'avez regardé.
Des petits bouts.
Non.
Des petits bouts. Donc Cyril Lignac, Guylaine Arabian, Philippe Echtebest et Yves Candebord ont voulu sensibiliser le public. Alors ce sont tous des chefs qu'on connaît bien si on regarde les émissions Top Chef et Master Chef. Donc ces chefs ont voulu sensibiliser le public. Alors moi-même j'ai regardé un tout petit morceau de cette émission. Certains conseils étaient assez intéressants, hein. Et ça ils l'avaient déjà dit dans des épisodes de Top Chef. Cuisiner les épluchures de légumes ou ne pas snober en rayon les fruits et légumes aux formes non généreuses qui se retrouvent de fait à la poubelle à cause des normes qu'imposent les supermarchés. Mais soyons honnêtes, hein, dans ces émissions, Top Chef, Master Chef, il y a aussi énormément de gâchis. Donc, je ne sais pas si les personnes choisies avaient réellement leur place au sein de cette émission.
Mais je crois que justement, tous les produits qui ne cuisinent pas sont donnés hein, dans ces émissions.
Alors oui et non, parce que tu sais que parfois, il reste des aliments dans l'assiette. C'est pas trop
ah
ce
oui,
qu'ils en font.
Ça, d'accord.
Et puis parfois, on les voit bien jeter à la poubelle certains aliments. Ça m'étonnerait qu'ils les réutilisent.
Quand on voit leur garde-manger, etc.,
oui,
où il y a beaucoup de choses, effectivement, tout ce qui...
Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Il y a énormément d'aliments dans le garde-manger et ils s'en servent. Mais quand ils prennent, on va dire, des légumes ou des poissons, de la volaille, etc., il y a bien
des
morceaux. Voilà, il y a des déchets quand même qui partent à la poubelle. Mais peu importe, j'ai envie de dire, s'ils étaient à leur place ou pas, le principal, c'est de réveiller les consciences. Donc, ma foi, cette émission pouvait être quand même être très bien accueillie. Alors, laissez-moi faire justement ma Guylaine Arabian, car voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils pour éviter de gaspiller la nourriture. Vous me direz probablement que tout cela n'est qu'une question de bon sens, et vous aurez complètement raison, parce que si ça se trouve, je vais rien vous apprendre. Mais bon, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Alors premièrement, ne jamais faire les courses le ventre vide. Pourquoi ? Parce que quand on a faim, on a trop tendance à craquer devant les aliments qui nous font envie, et donc on les achète. Sauf que bon, bah voilà, une fois rassasié et puis une fois qu'on a rempli tout le frige, bah, généralement on va jeter plus facilement parce qu'on aura évidemment trop acheté. Alors deuxième petit conseil, quand on arrive chez nous, les bras chargés de courses, on range bien ses affaires dans le frige. Les nouveaux aliments vont être placés au fond du frigidaire et les anciens devant pour pouvoir les consommer plus vite. Troisième conseil, si vous aimez cuisiner, c'est tout à votre honneur, mais si vous cuisinez trop, ne jetez rien à la poubelle. Soit vous placez les restes dans votre congélateur, soit avec ces restes, vous cuisinez un autre plat, comme le conseil d'ailleurs les bénévoles du Secours catholique de Mende, qui organisent chaque jeudi, en période scolaire, donc par exemple là cet après-midi, des ateliers de cuisine au lycée Notre-Dame, et qui donnent des conseils pour gérer au mieux en fait, son budget course. D'ailleurs, je fais pareil, une petite parenthèse concernant donc, ces restes qui peuvent être réutilisés. Pour ceux qui aiment l'émission, enfin la série « Fais pas ci, fais pas ça », Fabienne Lepic.
Le fameux fourzitou.
Exactement, prépare souvent des fourzitou. Donc ce sont des plats qui mélangent d'autres plats. Voilà, c'est un peu le pot pourri de restes.
Ouais, une soirée reste, ça se fait bien.
Hein. Ah, oui. Non mais en plus, je trouve que c'est mignon, fourzitou.
Hein, bien sûr.
Quatrième conseil, quand vous êtes au restaurant et que vous calez au plat de résistance, demandez un doggy bag. Alors cela consiste à emporter dans une barquette les restes de son repas qu'on a payé en plus. Donc ça évite au restaurateur de mettre les restes à la poubelle et puis en plus comme on l'a payé, on mange ça chez nous le lendemain. Et puis, évidemment, il faut aussi être un peu cohérent. Quand on cale au plat de résistance, donc on en laisse la moitié, bah, c'est peut-être pas la peine de prendre un dessert après, puisque si on n'avait pas faim, on n'a pas faim non plus pour le dessert.
Oui, non, mais des fois, on est gourmand, juste. Hein.
On est gourmand, mais bon, il faut aussi savoir respecter le travail du restaurateur, le produit, et puis encore une fois, penser à tous ceux qui ont faim. Donc, voilà, un petit peu de discipline.
Aujourd'hui, Aujourd'hui, on sert à vis. Hein.
J'ai entendu d'ailleurs ce matin un reportage sur un restaurant asiatique à ce propos-là, qui a buffet open bar, quoi. Donc ça peut inciter à beaucoup de gaspillage. Et en fait, la patronne fait une sensibilisation auprès de ses clients et depuis cette sensibilisation, jette beaucoup moins qu'avant. Mmh.
Tu n'aurais pas écouté France Inter par hasard ?
Bon,
parce que j'ai écouté le même.
Pareil qu'il ne faut plus que je parle de ma vie, donc je ne sais pas si faut que je le dise.
Qu'est-ce qui a dit ça? Bon, après, voilà, c'est une radio concurrente, mais néanmoins amie.
Oh, tout à fait.
Puisque c'est le service public.
Tout à fait. Alors, enfin, pour ceux et celles qui ont un jardin, vous pouvez évidemment enterrer vos fruits et légumes pourris ou tout autre déchet alimentaire périmé. Cela nourrira la terre. Et si vous avez des poules.
Du compost.
Oui. Tout à fait. Et si vous avez des poules, donnez-leur vos restes. Elles mangent tout au point que certains leur donnent le doux nom de poubelles. Elles sont capables de picorer chaque année 150 kilos de déchets et elles vous récompensent bien puisqu'une poule pondeuse vous offrira 150 œufs par an. De quoi faire de belles omelettes. Donc c'est un petit peu du donnant-donnant, quoi.
Alors c'est très courant en Lozère quand même, hein.
Oui, non, mais tout à fait, parce qu'on est dans un département rural. Après, je ne suis pas sûre que ce soit fait dans tous les départements. Mais par contre, il y a des initiatives depuis quelques temps, mais vous avez déjà entendu parler peut-être de ces initiatives-là, qui sont soutenues par des municipalités. Alors, évidemment, ce n'est pas dans des grandes villes, mais dans des petites villes, voire des grands bourgs. Les élus offrent des poules. Donne des poules aux gens qui ont un jardin. Comme ça, les poules, effectivement, mangent tous les déchets. Il y a moins d'ordures, il y a moins de poubelles. Et donc, la facture aussi diminue.
Il y a beaucoup de collectivités aussi qui soutiennent le compostage avec la mise à disposition de composteurs.
Tout à fait. Voilà.
Alors, donc tu nous disais tout à l'heure que le 16 octobre, c'était aujourd'hui. Donc, c'est la journée mondiale de l'alimentation et elle a un thème particulier, c'est l'agriculture familiale.
Exactement. Alors, juste pour commencer, je voulais quand même vous donner deux informations. Alors, la première journée mondiale de l'alimentation remonte à 1981. Mmh. Voilà. Pour certains, on n'était pas nés. Je regarde Guillaume.
Oui, effectivement.
Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l'a fixée au 16 octobre. Jour anniversaire de la création de l'organisation en 1945. Voilà, donc elle n'a pas été choisie au hasard. Mais revenons à nos moutons, comme tu l'as dit, Guillaume.
On avait dit que c'était des poules.
Eh ben, on revient à nos poules si tu veux. Et là, je vais vous citer l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, donc concernant cette journée du 16 octobre. Je la cite. Hein. Le thème de la Journée internationale de l'alimentation 2014, Nourrir le monde, préserver la planète, a été choisi pour accroître la visibilité de l'agriculture familiale et des petits exploitants. Il appelle l'attention mondiale sur le rôle crucial que joue l'agriculture familiale dans de nombreux domaines. Lutte contre la faim et la pauvreté, renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, amélioration des moyens d'existence, gestion des ressources naturelles, protection de l'environnement et réalisation du développement durable, notamment dans les zones rurales. Donc vous voyez, ça touche quand même plusieurs champs. Une définition de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, qui se traduit quand même assez bien en Lozère. Je vous rappelle que depuis 2011, les Causses et Cévennes ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son agro-pastoralisme. Par ailleurs, au travers d'associations comme la MAP du Gévaudan ou la boutique La Maison des Paysans à Mende, le consommateur lozérien est directement mis en relation avec des petits exploitants et des agriculteurs. Il y a donc une vraie traçabilité des produits et le consommateur a ainsi l'habitude d'acheter, c'est tout bête, mais des fruits et des légumes de saison. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter des tomates cerises en ce moment alors que ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus, sauf congelé, quoi. C'est ça, c'est que c'est plus la saison, quoi. Donc, une relation de proximité synonyme de confiance et de qualité. On est bien loin, et heureusement, me direz-vous, de la ferme des 1000 vaches installée dans la Somme. Rien ne stoppe cette frénésie et le développement des fermes-usines en France, puisqu'à 40 km de la ferme des 1000 vaches, la ferme des 250 000 poules pondeuses ouvrira bientôt ses portes. Donc, comme quoi, on en revient toujours à nos poules. Donc, comme quoi, on aura encore besoin de nombreuses autres journées mondiales de l'alimentation pour sensibiliser les consommateurs à privilégier les circuits courts et les industriels à apprendre la notion de respect.
Voilà. Merci, Anne-Marie, pour cette chronique qui nous réinterroge dans nos modes de vie, de consommation, etc.
Effectivement, et c'est là où on se dit que, effectivement, on peut tous s'y mettre. Et que même si ce sont des petites actions, comme je vous disais tout à l'heure, au restaurant, on ne commande pas de dessert si on n'a pas fini son plat de résistance, quand on fait ses courses, enfin, tout ça, c'est des questions de bon sens. Mais n'empêche qu'on peut réussir aussi à moins gaspiller et puis, encore une fois, à respecter le produit, à respecter le travail des agriculteurs, des paysans. Et voilà.
Bien, alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter suite à cette chronique ?
Alors, on se nourrit de produits alimentaires. On se nourrit aussi de sentiments, que ce soit l'amour, la haine, l'amitié. Donc, je vous propose d'écouter à cette occasion la très jolie chanson de Linda Lemay, « J'aime pas les femmes ».
Il y a bien des fois, j'aime pas les femmes. Souvent, je les hais parce qu'elles sont belles. Quand elles sont fortes, je les blâme de vouloir se prendre pour des hommes. Il y a bien des fois, j'aime pas les hommes. Je leur en veux d'être infidèle. Mais quand je pense aux femmes qu'ils trompent, je me dis que c'est bien fait pour elles. Car bien des fois, j'aime pas les femmes et leurs beaux discours de petite mère. Et je meurs de honte quand elles se pâment pour un idiot d'homme ordinaire. Parce que bien sûr, j'aime pas les hommes quand ils me chassent de leur univers. Je voudrais qu'ils me prennent pour un démeur. Je voudrais bien partager leur bière. Je me sens ridiculement femme, c'est-à-dire frustrée de nature. Une de celles qui font les drames pendant que leurs hommes font les durs. Y a bien des fois, j'aime pas les hommes, mais pourtant je voudrais qu'ils m'adoptent, qu'ils m'apprennent à retenir mes larmes, à me sentir fière d'être sotte. Oh, est-ce que je peux m'en vouloir d'être une femme? Surtout quand je tombe dans les filets d'un de ces pauvres polygames qui me jure de s'en aller jamais. J'aime pas les hommes qui me déchirent, j'aime pas les femmes qui me consolent. Lorsque les hommes veulent revenir, y a ces mêmes femmes qui me les volent. Et j'aime pas les femmes quand elles vieillissent avec des marques de chagrin. Je hais les hommes de père en fils car ils comprennent jamais. J'aime pas les femmes qui se promènent, qui s'en vont se perdre dans tes secrets. Elles sont peut-être les prochaines que tu briseras à tout jamais. Toi que je hais, toi que
La virgule. Je vous avais dit qu'on aurait des problèmes techniques aujourd'hui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Je me souviens jamais de cette virgule, je suis navrée.
Ça y est, c'est bon, elle est passée.
Donc, on retrouve Guillaume dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Et donc, Guillaume, tu nous avais dit que tu allais nous parler du prix Nobel, enfin des prix Nobel, puisqu'il y en a eu plusieurs finalement. Et qu'est-ce qu'un prix Nobel ?
Et bien voilà, c'est une bonne question. Et comme Aurélie, notre chère collègue qui nous a abandonnés cette année, l'avait très bien expliqué l'an dernier, et bien je vous propose de l'écouter parce que bon voilà, elle avait bien expliqué les choses. Donc voilà pourquoi la plagier alors qu'elle l'avait très bien fait. Donc voilà, petite dédicace à Aurélie et on t'écoute.
Alors la Fondation Nobel voit le jour en 1900. Elle est chargée en fait de remettre chaque année un prix dans 5 disciplines différentes. La paix ou la diplomatie, la littérature, la chimie, la physiologie ou la médecine, et la physique. Le choix du récipiendaire se fait par l'Académie royale des sciences de Suède pour la physique et pour la chimie, l'Institut Karolinska pour la physiologie ou la médecine, l'Académie suédoise pour la littérature, donc pour la littérature, et un comité nommé par le Parlement norvégien pour la paix. Voilà, tu rigoles déjà. La nationalité des savants primés ne doit jouer aucun rôle dans l'attribution des prix. Donc de ces 5 prix Nobel.
Et il y a donc 5 prix Nobel et pas de nouveaux prix.
Oui, effectivement, il y a 5 prix Nobel historiques en accord avec la Fondation Nobel, la Banque de Suède a institué un prix en économie qui s'appelle le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Et du coup, pour des facilités de langage parce que c'est un petit peu long, on dit le prix Nobel d'économie, bien qu'il n'ait pas formellement un prix Nobel. Il est décerné donc par l'Académie royale des sciences de Suède depuis 1968. Et à cette date, en fait, il a été décidé de ne plus créer de catégorie de prix nouvelles. En fait, on avait suggéré à un moment un prix pour l'écologie ou l'environnement. Et finalement, ça s'est pas fait.
Et pourquoi avoir fondé ce prix Nobel alors que finalement, voilà, c'était un chercheur qui n'avait peut-être pas besoin de ça, finalement.
Voilà, effectivement, on aurait pu penser qu'il utilise son argent comme tout le monde. Enfin,
comme bon lui semble.
Voilà, ouais. Comme bon lui semble. Et pas de bol pour lui, en fait. Il est tombé en 1888 sur une publication erronée dans un journal français d'une nécrologie un petit peu prématurée. Hein, c'était un petit bug, une faille temporelle pour eux aussi, qui, en fait, condamnait l'invention...
Pourquoi ça arrive aussi
voilà,
aux autres.
Voilà, pas qu'à moi. Une petite invention de la dynamite. Et du coup, il s'est dit, mais il faut que je laisse une meilleure image de moi... au monde après ma mort. Du coup, c'était quand même un humaniste éclairé qui
vendait des armes.
Voilà, qui vendait aussi des armes, mais qui du coup souhaitait apporter à l'humanité bonheur et paix. Et il se doutait
je t'offre une bombe.
Voilà, il se doutait bien que la dynamite n'y avait pas forcément participé. D'ailleurs, la nécrologie affirmait le marchand de la mort est mort, le docteur Alfred Nobel qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer le plus de personnes le plus rapidement que jamais auparavant est mort hier. Donc voilà, vous imaginez bien.
En tout cas, c'était bien écrit.
Oui.
Même si c'est morbide et puis pas très sympa puisqu'il n'était pas mort, mais
voilà.
Une nécro bien écrite.
Bien tournée. Mais en tout cas, pour lui, ça a été la douche froide. Et en 1895, il finit par mettre un point final à son testament qui va léguer l'intégralité de sa fortune pour la création donc, du prix Nobel. Et il meurt du coup l'année suivante, alors il a bien fait de se presser, d'un AVC.
Mais encore aujourd'hui, l'argent que l'on donne au prix Nobel, c'est finalement son argent ?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, ça découle du legs Nobel, effectivement, dans la mesure où, selon les termes du testament, sont affectés 31,5 millions de couronnes suédoises de l'époque. je vous épargne la conversion en couronne d'aujourd'hui, ça fait en fait 197 millions d'euros. Donc voilà. Et ça, c'est le capital. On n'y touche jamais, en fait. C'est les intérêts qui, chaque année, vont être redistribués, alors je cite la phrase du testament, à ceux qui, au cours de l'année précédente, se sont consacrés au plus grand intérêt de l'humanité.
Voilà, le plus grand intérêt de l'humanité. Donc, c'est justement ce qu'on va voir pour cette promotion 2014.
Et donc, on commence par le prix Nobel de la physique.
Et oui, si vous voulez, on peut commencer effectivement par la physique.
Enfin, c'est toi qui vois. Hein.
Oui. Non, on peut commencer, c'est ce que je t'ai écrit, donc tout va bien. Donc, 20minutes.fr présente les trois lauréats de ce prix Nobel de physique cette année. Alors, attention, parce qu'il y a des mots compliqués aujourd'hui. Donc, les Japonais Isamu Akazaki, Hiroshi Amano et l'Américain Shuji Nakamura.
Oh, ça va, tu te débrouilles bien.
Ça va, oui, non, mais j'ai répété une partie de la nuit. Ils sont les inventeurs de la diode électroluminescente, les fameuses LED. Et donc, ces chercheurs sont consacrés pour avoir, je cite, « inventé une nouvelle source de lumière efficace d'un point de vue énergétique et bon pour l'environnement ». C'est ce qu'a indiqué le jury dans un communiqué. En inventant les lampes LED, une nouvelle source de lumière, ils ont réussi là où tout le monde avait échoué, a souligné le jury, qualifiant cette découverte de révolutionnaire. Alors Isamu Akazaki, 85 ans, a mené ses recherches avec Hiroshi Amano, né en 1960 à l'université de Nagoya, tandis que Shuji Nakamura, né en 1954 au Japon, est aujourd'hui chercheur à l'université de Californie, à Santa Barbara, aux États-Unis, et il travaillait sur le même sujet dans une petite entreprise japonaise.
Bon, bah après la physique, la chimie.
C'est ça, on poursuit avec Erwan Lecomte dans Science et Avenir qui évoque ce prix de Nobel de chimie 2014 qui récompense le microscope à très haute résolution. Donc Eric Betzig, Stéphane W. L., William E. Morner ont été récompensés du prix Nobel pour leurs travaux sur donc, le microscope à haute résolution qui permet d'observer des nanostructures biologiques. Grâce à leurs travaux, il est désormais possible d'observer la matière vivante de manière dynamique à l'échelle des protéines, sans la détruire ni la figer. Grâce à eux, le microscope est devenu un nanoscope en franchissant la barrière que l'on pensait indépassable d'une résolution de 2 micromètres. En effet, le physicien allemand Ernst Abbe, l'un des pionniers du microscope moderne, pensait que les optiques ne permettraient jamais de discerner des objets plus petits que la moitié de la longueur d'onde de la lumière qui les éclaire. Et finalement, c'est donc contredit par ces trois chercheurs. Et le comité Nobel précise sur son site, grâce à la mise au point de ces techniques, il n'y a désormais plus de structures qui soient trop petites pour être étudiées.
Voilà, pour le moment, ce sont des prix donnés à un trio finalement, hein, que ce soit physique, chimie, c'est toujours trois personnes. Est-ce que pour la médecine, c'est la même chose ?
Alors, ils sont trois aussi en médecine, ça tombe bien. Mais après, vous verrez, il y en a des tout seuls à la fin.
Il y en a deux aussi,
ça dépend. Oui. Donc là, l'Express.fr revient donc sur l'attribution du prix Nobel de médecine à trois chercheurs en neurosciences, l'américano-britannique John O'Keefe et un couple de Norvégiens, May-Britt et Edward Moser, pour leurs travaux sur les cellules qui constituent un système de géoposition dans les cerveaux, selon le comité Nobel. Alors, ce GPS interne au cerveau permet de s'orienter dans une pièce. Il permet de répondre à des questions simples, telles que comment savons-nous où nous sommes, comment réussissons-nous à trouver le chemin d'un lieu à l'autre, et comment stockons-nous cette information d'une manière telle que nous puissions immédiatement trouver le chemin la fois suivante où nous empruntons la même route. C'est vraiment le GPS dans notre tête, quoi. Mmh. Et donc, John O'Keefe a découvert en 1971 le premier composant de ce GPS. Et il a fallu attendre 2005 pour que May-Britt et Edward Moser identifient un autre composant clé de ce système, des cellules nerveuses qui créent un système de coordonnées pour déterminer les positions.
Et c'est là où on se dit qu'on est tous inégaux devant le savoir. Ouais. Parce que ce sont quand même, pour le coup, des cerveaux, quoi. Ils sont hyper intelligents.
Ah oui, c'est
incroyable, quoi.
C'est assez incroyable, effectivement, comme recherche et d'arriver à ces résultats-là. Enfin, c'est vrai qu'on se dit que c'est frappant.
Bien, alors maintenant, on va passer à la littérature, peut-être ?
Oui, et c'est le premier cocorico.
Je suis à nouveau avec vous.
C'est le premier cocorico de notre palmarès, avec effectivement un Français, le prix Nobel de littérature, qui est attribué donc à Patrick Modiano. Alors, qui est-il ? Depuis son premier roman, La place de l'étoile, en 1968, il a signé plus de 30 ouvrages, mais pour brouiller les pistes, l'auteur assure qu'il écrit toujours le même livre, à quelques variations près.
Alors moi, je peux vous dire qu'en tant que lectrice, on a parfois l'impression de lire le même livre à quelques variations près, effectivement.
Alors, son œuvre est couronnée par le prix Nobel de littérature pour l'art de la mémoire, avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation, comme l'explique l'Académie suédoise et son secrétaire perpétuel Peter Englund, qualifiant l'auteur de Marcel Proust de notre temps. Alors, je vous invite à aller sur 48fm.org pour écouter le magazine littéraire de la semaine dernière qui en parlait justement. Et on, voilà, après, Sophie Caro, tu as justement des expériences de lecture de Patrick Modiano.
Des expériences de lecture, et puis je trouve ça assez fabuleux. Alors, il a fait un peu la une de la rentrée littéraire, Modiano, mais c'est en dehors de cette courte période de sortie de livre, c'est quelqu'un d'hyper discret qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais. D'ailleurs, c'était très drôle à l'annonce du prix Nobel, parce que notamment les radios ont eu du mal à le joindre de suite. Il n'était pas chez lui. C'est sa fille qui l'a prévenu par téléphone. Il était dans la rue. Et alors, on a eu pendant 4 ou 5 heures simplement des bouts d'interviews qui avaient été faites quelques semaines avant pour la sortie de son bouquin. Moi, je trouve ça très drôle et très sympa. Et c'est quelqu'un qui, maintenant, va être exposé de façon mondiale avec son œuvre, je trouve ça très bien. Alors moi, c'est une expérience de lecture, je ne veux pas vous parler de ma vie, mais c'était le...
tu peux,
hein. C'est un des auteurs préférés de mon amoureux, donc forcément, quand je l'ai rencontré, on a partagé ces lectures-là, et c'est vrai que... Alors, c'est super bien écrit, ce sont de belles petites histoires de vie, mais effectivement, alors j'en avais enchaîné plusieurs à la suite pour découvrir cet univers... Et j'ai vraiment eu cette overdose d'avoir l'impression de lire tout le temps cette même histoire, vaguement remarniée, vue d'un autre angle. Mais c'est aussi toute cette richesse. Et c'est vraiment un auteur formidable. En tout cas, moi, je peux vous dire que quand j'ai entendu cette annonce sur cette radio amie, donc, vraiment, j'ai été ravie parce que ça faisait plusieurs années que le prix Nobel de littérature était annoncé et que je n'avais même pas lu un livre de chacun des auteurs. Donc là, pour une fois, je me suis dit, waouh, un Français que je connais plutôt bien. Donc j'étais vraiment ravie. Je crois que c'est vraiment un bel hommage.
Après, ça doit être compliqué, je pense, pour le jury de se prononcer concernant le prix Nobel de littérature. Parce que c'est vrai qu'autant la chimie, la médecine, la physique, on se dit, ils ont découvert quelque chose.
Voilà, il y a des avancées.
Ont révolutionné ou qui vont révolutionner un peu notre quotidien. Il est évident que pour la littérature, c'est tout autre chose. Ça doit être assez compliqué quand même.
Surtout qu'ils lisent des traductions en suédois.
En plus,
oui.
Ouais.
Donc, je ne sais pas trop sur quels critères ils se basent. Et, est-ce que c'est plus les sentiments qui parlent du coup ? Enfin, j'en sais rien, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà,
sans doute.
Parce que du coup, c'est forcément moins scientifique que la physique.
Oui,
la
chimie, tout à fait. C'est très subjectif.
Voilà. Exactement. Mais bon. Et on va peut-être passer avec le prix Nobel de la paix.
Oui, le plus connu, le plus attendu. Et c'est une grande cause que le comité Nobel a retenue pour ce prix Nobel de la paix 2014. Je cite « Le combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation ». Et cette grande cause est incarnée par deux personnes, la pakistanaise Malala Yousafzai et l'indien Kailash Satyarthi. Enfin, je vous avais dit que c'était compliqué aujourd'hui. Donc je vous propose quand même de...
Ah, juste ce qu'il y a de drôle cette année, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de pronostics sur ce prix Nobel. Chaque année, il y a toujours un petit top 5 de ceux qui sont susceptibles de l'avoir. Cette année, on n'avait quasiment pas entendu parler. Malala était nominée l'année dernière.
Oui, on avait parlé de Malala beaucoup l'an dernier. On a quand même reparlé de Malala cette année. On s'est dit, peut-être
oui,
que...
Oui, non mais voilà, mais c'est vrai que c'était plus discret du coup cette année. Enfin, il m'a semblé...
Alors, je vous propose quand même de découvrir ou de redécouvrir qui ils sont. Et alors, pour évoquer Malala, je vous propose d'écouter ce que nous disait Anne-Marie l'an dernier. Alors, vous allez entendre qu'elle avait échappé au prix Nobel, mais en fait, non, puisqu'elle l'a eu entre-temps. Mais voilà, donc c'était la chronique.
Effectivement, c'était l'an dernier.
C'était l'an dernier.
La pauvre, elle ne l'a pas eu.
Voilà, donc on réécoute ce petit extrait.
Elle a eu quelques prix entre-temps, d'ailleurs.
Elle a eu quelques prix entre-temps.
Oui, mais c'est ce que j'avais dit de toute façon lors de cette émission qui avait été diffusée l'an dernier.
Voilà.
Elle a eu énormément de prix. Il n'empêche que le prix Nobel, ça reste le plus emblématique quand même.
Voilà, et ce qui est important, c'est, enfin voilà, vous allez l'entendre, c'est aussi un témoignage qui était frappant, qui nous avait frappé l'an dernier, et je crois que c'est aussi intéressant de réécouter ce petit morceau de l'émission que vous pouvez aussi retrouver sur 48fm.org. On écoute.
Ce joli prénom est devenu en quelques mois le synonyme du mot combat,
Alors, combat pour l'éducation des jeunes filles, hein, combat pour la libération de la parole et combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, la jeune femme évoque sa vie, ses rêves et sa passion pour les mots dans un livre autobiographique poignant intitulé « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans » aux éditions Calmant Lévy. Donc, dans ce livre, Malala Yousafzai revient sur sa naissance hein, dans la région du Swat, au Pakistan donc. Sauf que dans cette partie du monde, la naissance d'une fille n'est jamais jour de fête. Alors, je la cite. « J'étais une fille dans un pays où on tire au fusil pour fêter la naissance d'un fils et où les filles sont cachées derrière un rideau, leur rôle se résumant à préparer la nourriture et à produire des enfants. » Fin de citation.
Ça me parle de produire des enfants.
Et pourtant, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Malala est née le 12 juillet 1997 sous une bonne étoile. Et là, ce n'est pas une plaisanterie. Son père érudit, nommé un temps conseiller spécial de l'ONU pour l'éducation, l'accueille avec joie, fait d'elle son apprenti du bonheur et sa plus grande disciple d'un concept qui nous paraît évident. Et pourtant, c'est le droit à l'éducation. Malala aime l'école, veut toujours être la première de sa classe. Malala est convaincue d'une chose, c'est grâce à l'enseignement qu'elle va réussir à s'émanciper et à prendre du recul par rapport au carcan imposé par sa religion. Du moins, les règles imposées par les talibans qui font une lecture plutôt très personnelle du Coran. Malala a très vite compris que seule une instruction savante permettait aux jeunes de se libérer du fardeau des traditions. Malala donc est intelligente, vive et débute très jeune des concours d'éloquence comme son paternel. Elle prend de l'assurance jusqu'au jour où elle rentre en contact avec un correspondant de la BBC. Grâce à lui, en fait, elle va le tenir de façon anonyme un blog sur le site ourdou de la BBC et évoque son quotidien, l'école, sa soif d'apprendre toujours et encore, ses amis, bref, sa vie. Ce site est de plus en plus consulté. Malala commence alors à donner des interviews à visage découvert dans le monde entier et devient de fait une cible privilégiée pour les talibans qui prônent l'enfermement et l'avilissement des femmes.
Et donc Malala a failli mourir.
Oui, alors la jeune femme raconte le jour où tout a basculé dans le prologue, puis à la fin de son livre. Alors je plante le décor, hein, le 9 octobre 2012, alors qu'elle se trouve dans un bus qui la ramène chez elle en compagnie de ses amis. Elle est victime d'un attentat. Donc là, je vais citer une partie de son prologue. Alors, l'homme portait une casquette et s'était recouvert le visage d'un mouchoir comme s'il avait la grippe. On aurait dit un étudiant d'université. Il se hissa sur le haillon et se pencha à l'intérieur. « Qui est Malala ?» demanda-t-il. Personne ne répondit, mais plusieurs filles me regardèrent. J'étais la seule à ne pas avoir le visage voilé. Il leva alors un pistolet noir. Certaines des filles poussèrent des cris. Moniba, donc c'est son amie, me dira un jour que j'avais serré sa main. D'après mes amis, il tira trois coups successifs. La première balle entra dans mon orbite gauche et se logea dans mon épaule gauche. Je m'effondrais sur Moniba, du sang jaillissait de mon oreille gauche, si bien que les deux balles suivantes atteignirent les filles assises près de moi. Une frappa Shazia à la main gauche, la troisième traversa son épaule gauche et blessa le bras droit de Keina Triaz. Mes amis m'ont raconté que le tireur avait la main qui tremblait. Le temps que nous arrivions à l'hôpital, mes longs cheveux et les genoux de Moniba se couvrirent de sang. Qui est Malala ? C'est moi. Et ce livre raconte mon histoire.
Alors, effectivement, un peu plus tard dans la chronique, Anne-Marie présentait l'engagement aussi de Malala et son action. Et donc, je vous propose d'écouter ce deuxième extrait qui était un petit peu plus loin dans cette émission d'octobre dernier.
Alors, en décembre 2012, Malala Yousafzai reçoit le prix Simone de Beauvoir aussi pour la liberté des femmes. Puis le 10 octobre 2013, elle reçoit le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit donc du Parlement européen. Alors avec l'argent gagné grâce à ces récompenses, Malala a fondé une association pour aider les enfants qui travaillent donc pour survivre. Alors en ce moment, elle permet à 14 filles de sa région de s'instruire. La fondation de Malala, en contrepartie, donne une indemnité compensatoire mensuelle aux parents pour qu'ils les autorisent à aller à l'école. Elle explique d'ailleurs très bien ce projet. Donc j'ai cette idée depuis très longtemps. Un jour, sur le bord de la route d'Islamabad, j'ai rencontré une fillette qui vendait des oranges. Elle faisait semblant d'écrire avec un bâtonnet. J'ai décidé que je me battrais pour ces filles, pour qu'elles ne vendent pas des oranges, mais apprennent d'où viennent les oranges, les arbres, les montagnes. Je souhaite que tous les enfants aient la chance que j'ai eue.
Voilà, donc c'était assez émouvant, moi je trouve, ces éléments que tu nous avais proposés l'an dernier. Et donc je vous invite vraiment à réécouter tout ce portrait et puis le récit de l'engagement de Malala.
Oui, sur on vous invite à lire aussi le livre Moi Malala.
Bien sûr, chez Kalman Levy. Mais évidemment, on parle beaucoup de Malala, et il faut quand même qu'on parle un petit peu de l'Indien Kailash Satyarthi, le co-prix Nobel de la paix 2014. Alors, Lacroix nous raconte son expérience sous la plume d'Olivier Thalès. Cet homme, âgé de 60 ans, se consacre depuis 3 décennies à la lutte contre le travail forcé des mineurs, qui toucherait 10 millions de personnes dans son pays, hein, l'Inde. Pour militer en faveur des déshérités, Kailash Satyarthi a renoncé à tout, sa carrière d'ingénieur, sa caste brahmane, dont il dénonce les privilèges et même son vrai nom. Et après avoir mené un combat anti-caste, créé des syndicats dans l'industrie minière et la briqueterie, il s'est consacré principalement à l'exploitation des enfants dans les usines du pays, plutôt la lutte contre cette exploitation. Au cours des années 1990, son action aboutit à l'annulation de commandes par l'industrie européenne. L'homme devient la cible de patrons bourreaux, avec des appels menaçants, des cambriolages suspects, des agressions verbales ou physiques. Et Kailash Satyarthi a même été roué de coups en 2004 par des propriétaires d'un cirque indien et qui exploitaient des petites népalaises. Devant la faiblesse de la justice et l'impunité des exploiteurs d'enfants, son association, Bashpan Bachao Unfola, organise de véritables opérations commando pour libérer les enfants. Et les salariés de l'ONG repèrent les lieux, pénètrent dans l'usine, emportent les mineurs, puis les évacuent vers Balashram, un refuge qui est installé dans le Rajasthan, où ils réapprennent à vivre, sont logés et nourris, et entament une scolarité. Ceux qui ont des parents retournent chez eux au bout de 6 mois, sous le contrôle de l'association, et les autres deviennent pensionnaires permanents de l'ashram.
D'accord, et on va finir peut-être par le prix.
Peut-être on peut signaler que ce soir à la librairie de la Lorgnette, il y a un auteur indien qui est invité, qui a un peu ce parcours-là, et que la rencontre à partir de 19h risque d'être fort, fort intéressante.
Merci pour ce complément.
Donc on termine par le prix Nobel d'économie.
Alors, si je vous dis Tirol, vous pensez forcément à ça.
C'est pas la fête de la bière amande, ça, plutôt ?
Alors, même si l'homophonie fonctionne bien, revenons à un peu de sérieux pour parler de Jean Tirole, notre deuxième Français de ce palmarès, qui obtient donc le prix Nobel d'économie, ou si vous avez bien entendu Aurélie tout à l'heure, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Alors, lemonde.fr nous présente ce fameux Jean Tirole, président de la Toulouse School of Economics, TSE, distingué pour ses travaux sur la régulation des marchés. Le comité Nobel a présenté notre Français comme l'un des économistes les plus influents de notre époque. Il est professeur à Polytechnique, il a poursuivi ses études aussi au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT de Boston. Et il fut médaille d'or du CNRS en 2007, après avoir reçu avec Jean-Jacques Lafont en 1993 le prix de l'Association européenne d'économie. Alors, l'un de ses livres les plus célèbres est « The Theory of Industrial Organization », où il fait une analyse des comportements stratégiques des acteurs économiques en fonction des structures de marché. Et ce livre est publié en anglais et traduit en 6 langues.
C'est vrai que c'est de l'info light, tout ça.
Ouais, puis ça donne pas vraiment envie de le lire, hein. Mais bon. Et c'est peut-être parce qu'après, c'est pas mon domaine. Mais...
Alors, ce qui a bien forcément marqué toutes les interviews de ce prix Nobel depuis qu'il a été récompensé, c'est son avis sur l'économie et l'avenir économique de la France. Et il déclare « Je ne pense pas que l'économie française est un cas désespéré, car on a quand même beaucoup d'atouts, on a des grandes entreprises qui marchent bien, un tissu de PME qui est encore trop faible, et surtout beaucoup de capital humain. Mais il pense qu'il va falloir très vite changer les choses pour donner un avenir à nos enfants. Depuis 30 ans, 40 ans, il y a du chômage, et les jeunes, on leur propose des CDD dans leur grande majorité, parce que les entreprises ont trop peur de donner des CDI. On se retrouve donc avec une situation complètement absurde, qui est qu'à force de trop protéger les salariés, on ne les protège plus du tout. Ce n'est pas un hasard que toute l'Europe du Sud, qui a exactement les mêmes institutions du marché du travail, se retrouve avec beaucoup de chômage, alors que l'Europe du Nord, la Scandinavie par exemple, qui a un système différent, se retrouve avec assez peu de chômage. Fin de la citation donc, de Jean Tirole.
Et par contre, ce que je trouve bien, c'est que là, dernièrement, forcément, les journalistes lui ont posé des questions quant à l'économie de notre pays en ce moment et s'il avait des conseils à donner à François Hollande. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il a dit « Mais moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas la politique, donc je ne répondrai pas à ces questions. » Donc, je trouve ça bien aussi qu'il voilà, il est spécialiste dans son domaine, mais il reste dans son domaine.
Oui, oui.
Voilà.
Et il a dit qu'après, si un État voulait... Enfin voilà, qu'il était aussi au service et qu'il pouvait...
Tout à fait, mais ouais. Il n'est pas là pour donner son opinion.
Mais on peut quand même simplement rappeler quand même, par rapport à ce qu'on disait sur les CDD et les CDI à l'instant, qu'en 2003, Jean Tirole avait proposé avec Olivier Blanchard, qui est aujourd'hui économiste en chef au Fonds monétaire international, l'instauration d'un contrat de travail unique qui se substituerait au contrat à durée déterminée et indéterminée, donc assorti d'une augmentation progressive des droits des salariés, en fonction de l'ancienneté. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un débat qui est encore en plus d'actualité. Donc voilà, je pense que effectivement, le fait qu'il soit lauréat a fait un peu de, peut-être aussi remettra ce sujet dans les négociations entre syndicats et gouvernement. Voilà.
Très bien. Ben merci Guillaume pour toutes ces infos. Et alors, que nous proposes-tu d'écouter pour finir cette chronique prix Nobel ?
Alors, je ne vous propose pas de réécouter nos amis du Tirol hein, un petit peu plus longtemps.
Oh, quel dommage !
Et c'est dommage. Mais puisque la France gagne, que les adeptes du French bashing n'ont plus qu'à aller se rhabiller, que des gens font tout ce qu'ils peuvent dans leur domaine pour faire avancer la science et le monde, et ben ça redonne quand même un peu le sourire, un peu plus qu'il y a 3 semaines où j'étais un peu déprimé, souvenez-vous.
Oui,
alors aujourd'hui, ben je vous propose une petite sélection de Julia avec une reprise du tube de Pharrell Williams, Happy. Voilà, une reprise assez sympathique. On écoute.
One, two, three, It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way.
Happiness is to you, oh, oh, oh.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et voilà, Caroline était partie pendant la
virgule.
Mais
ça nous perturbe les virgules.
J'ai mangé la virgule.
Il faut les enlever, Guillaume, ça sert à rien, on est perdu. Voilà. On est paumé.
Bon, alors.
Je disais que donc on gardait le sourire avec.
Oui.
Et puis là, on va un petit peu dans les salles obscures avec toi, Caroline.
Oui. Si c'est vous ça. Voulez bien, enfin les salles obscures et leurs coulisses, on va dire. Oui. Hein. J'aime bien les coulisses, Anne-Marie, tu le sais.
C'est vrai.
Ça a l'air un peu people quand même, hein, parce que le premier thème de la chronique, ça sent quand même le people.
Mais
hein.
Pourquoi, c'est quoi le premier thème?
Ben vas-y, je t'en prie.
Voilà. Il se pourrait qu'on parle d'un mariage.
Un drame, veux-tu dire, Anne-Marie?
Un drame,
non?
Non, mais bon, non, pourquoi pas, peut-être. Enfin, parce que George Clooney, il s'est marié, c'est ça?
Ben oui, George qui a épousé, je pense pas que vous ayez pu échapper à l'information, l'avocate britannique de 36 ans, Amal Alamuddin, à Venise, fin septembre. Alors, j'aurais pu vous en parler à la précédente émission, parce que c'était juste avant, et... J'avais un peu zappé le truc, mais alors c'est vrai.
Ils ne t'ont pas invité, c'est pas
carton,
cool.
Tout voilà. Ça, non, vraiment, je n'ai pas trouvé ça très cool, effectivement. Donc, pour l'occasion, vous vous en souvenez donc sûrement, le couple avait privatisé un palais vieux de 450 ans à Venise, contre la modique somme de 48 000 euros la nuit. Un mariage qui a coûté bonbon, mais bon, apparemment, les deux amoureux en ont les moyens, tant mieux. Et alors, depuis, le couple est parti en voyage de noces et...
Et on n'était pas invités non plus.
Et on n'était pas invités non plus, mais là, il y avait un peu moins de monde, d'ailleurs. Et à l'occasion d'une visite au musée de l'Acropole à Athènes, Amal a craqué sur une série de verres à cocktail en verre de Murano, donc on est toujours proche de Venise, qu'elle a offert en cadeau de mariage à son amoureux. Et une source proche du couple a déclaré « Amal aime l'idée d'avoir chez elle les mêmes verres à cocktail qu'elle utilisait avec Georges à l'hôtel Cipriani à Venise ». Voilà, et alors c'est dans l'Express, le magazine Style, que l'on nous dévoile les 5 petites anecdotes de ce mariage. Vous voulez les connaître?
Ah bah oui.
C'est croustillant en plus. Donc
alors, la première, c'est que éméché, Georges a failli finir à l'eau.
D'accord.
La deuxième, c'est que 1200 bouteilles de tequila étaient prévues pour ce mariage.
Ah bah même.
C'est pour ça qu'il était éméché.
Mais c'est ça.
Ah oui, quand même.
Que Georges a copiné avec les journalistes, bien évidemment. Mm-hmm. Pour leur réserver la primeur de l'événement, puisque la quatrième info, c'est que les téléphones et appareils photos étaient interdits à ce mariage. D'ailleurs, on n'a pas vu énormément de photos, si ce n'est dans certains magazines People.
Oui, mais qui était sans doute... Qui
très avait officiel.
Voilà. Qui avait acheté...
Mais ça se fait beaucoup, ça, ces derniers temps.
Bien sûr. Ouais. Voilà, et donc la dernière petite info, c'est qu'un blog féministe a rendu hommage à Amal Alamuddi, Clooney donc maintenant.
Pourquoi ils lui ont rendu hommage? Oui.
Alors, l'avocate mondialement plébiscitée Amal Alamuddi a épousé un acteur. C'est avec ce titre que le blog de The Business Woman a annoncé la nouvelle du mariage, signale le site Jezebel. Nous espérons simplement qu'il ne l'empêchera pas de conquérir le monde, écrit la blogueuse Amanda Rose. George Clooney a décroché le gros lot. Une façon humoristique de rappeler qu'avant d'être la femme de George Clooney, Amal Alamuddi était elle-même en l'occurrence une femme accomplie.
D'accord. Moi, je sais pas. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des histoires aussi, que c'était un peu un mariage de façade, parce que
Ça va lui rapporter même... beaucoup,
et que Monsieur serait plutôt intéressé par les hommes. Donc,
disons, c'est surtout que George Clooney, il se lance dans la politique, il aime ça, voilà. Et qu'il se dit pourquoi pas plus tard avoir une femme avocate, ça peut toujours aider.
Mmh. Et puis jolie en plus, donc
il va pas prendre un laidron, Caroline.
Non, voilà, voilà.
Mieux vaut avoir une belle femme plutôt qu'une
femme. Je conclurai par très célèbre What Else.
Alors après le mariage.
Non, mais j'ai vu ça hier et je trouvais ça marrant. En fait, c'était sur la chirurgie esthétique en France, donc les gens plébiscitent de plus en plus. Hein, il y a quand même un Français sur 10 qui passe sous le bistouri. Et donc c'est surtout les seins de Nabila qui sont demandés aux chirurgiens, les fesses de Kim Kardashian, et les hommes demandent de plus en plus à ressembler à George Clooney. grâce à la chirurgie esthétique. Voilà, c'était juste une petite parenthèse.
La parenthèse de chirurgie esthétique d'Anne-Marie, c'est important.
Mais
c'est les sujets qu'elle suit, de toute façon.
C'était un petit clin d'œil.
La chirurgie esthétique, c'est un sujet d'Anne-Marie.
Je te remercie. C'est juste que c'était un petit clin d'œil à Georges Clooney. Et si tu as suivi les infos d'hier, 15 octobre, tu aurais su que...
Oui, mais alors un Clooney, ça va. Mais alors, plus de Clooney, bonjour les dégâts.
Alors, donc après le mariage de la rentrée, la rupture de l'été ?
Eh bien oui, puisqu'il faut bien un petit contrepoint. Donc, moi, j'ai appris ça très, très, très récemment. J'avais loupé cette info cet été et ça m'a beaucoup attristée. Sophie Marceau et Christophe Lambert se sont séparés cet été. Une amicale séparation, était-il dit très laconiquement dans le communiqué qui a été transmis à l'AFP. Il faut dire que les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois sur le désamour des deux acteurs français. Voilà, donc cette rupture a été officialisée. Et alors Christophe Lambert s'explique sur cette séparation. Et ils étaient quand même ensemble depuis 7 ans.
Ah oui, quand même. Hein.
C'est quand même pas mal. Et il revient sur cette séparation donc en disant, très fair play je pense, tout s'est passé comme nous l'avons déclaré à l'AFP. Afin d'éviter les rumeurs d'une certaine presse, nous avons décidé de nous séparer en toute amitié. C'est pour moi une logique implacable. Vous ne cessez jamais d'aimer quelqu'un, vous l'aimez mais différemment. Je l'ai vécu avec Diane, comme avec les autres femmes qui ont par la suite compté dans ma vie. Pourquoi se fâcher avec des gens qu'on a aimés? Cela voudrait dire qu'on ne les a pas vraiment aimés. Maintenant, dans un couple, il arrive qu'on n'ait plus les mêmes envies. C'est tout ce que je veux dire à ce sujet.
Donc, le cap des 7 ans a été tragique. Mais en même temps, moi, j'ai été surprise qu'il reste autant de temps. Enfin, déjà, j'ai été surprise qu'ils se mettent ensemble.
Voilà, il y a déjà.
Et puis qu'il reste autant de temps.
Ça va de surprise en surprise, tout ça.
C'est voilà. Ça.
Alors, vous savez qu'on a beaucoup vu Sophie Marceau avec Patrick Bruel cette rentrée, puisqu'ils sont à l'affiche d'une comédie bien franchouillarde et gentillette, Tu veux ou tu veux pas. Bon, on cantonne Sophie Marceau dans ses rôles de jolie quadra.
Bah, on cantonne, se cantonne elle-même. Hein.
Oui, elle se cantonne, elle est pas obligée d'accepter. Je ne sais pas si on lui propose autre chose. Bon, en tout cas, elle ne sort pas trop de ses rôles. C'est un peu dommage, je pense. Alors, grande discussion l'autre jour avec des copains qui trouvaient que non, elle était suffisamment gourdasse pour n'avoir que ces rôles-là. Alors voilà, le débat est ouvert. Bon, en tout cas...
Après, s'il sent bien... Moi,
voilà, peut-être un cœur à prendre. Ou alors, une rumeur à lancer, Patrick Boel et Sophie Marceau. Enfin, voilà. Pour de vrai, braque à l'écran, mais ça, ce n'est vraiment que de la rumeur.
On poursuit avec deux personnalités qui font la une.
Eh bien oui, puisque en restant dans le monde du cinéma, alors la première, c'est Penélope Cruz, qui a été élue la femme la plus sexy du monde. C'est...
Enfin,
voilà. Enfin, et pour la première fois, donc qu'elle décroche ce titre. Pourtant, Penélope est caliente et
elle est magnifique,
superbe, quoi. Ouais, donc, elle a été élue par le magazine américain Esquire et elle succède à la blonde Scarlett Johansson qui avait raflé la couronne en 2013 mais aussi déjà en 2006. Donc cette distinction apporte un sérieux coup de pouce à l'Espagnole qui est inscrite sur une liste noire à Hollywood après avoir pris la défense des Palestiniens dans une tribune signée par une centaine de personnalités ibériques dont son mari Javier Bardem et le réalisateur Pedro Almodóvar. Voilà, en tout cas, moi, je suis bien contente de ce prix, enfin, de cette distinction. Je la trouve effectivement assez sexy.
Elle est magnifique, et puis même, enfin, je trouvais ça bizarre qu'elle n'ait pas été élue avant, quoi.
Et puis, Anne-Marie, tu le sais, les brunes, du coup, ne comptent pas pour des prunes. Voilà, la deuxième personnalité de l'autre sexe, il s'agit de Neil Patrick Harris. Alors, je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose à tous les deux.
Oui, mais je vois, j'aperçois la photo sur...
Ah ouais, c'est triché,
sur,
donc.
Sur ton...
C'est le héros de How I Met Your Mother, qui vient d'être choisi pour présenter la cérémonie des Oscars 2015. L'info est toute récente, puisqu'elle date d'hier. Et cet acteur... qui a déjà présenté, il faut le dire, la cérémonie des Emmy Awards, a déclaré donc hier « C'est véritablement un honneur et une joie de se voir confier ce rôle de maître de cérémonie ». Voilà, donc...
C'est vrai que c'est un métier, qui, c'est quelque chose qui est difficile à faire, hein, ce genre de,
c'est difficile,
de cérémonie, parce qu'il faut passer les plats, il faut
se prendre les pieds dans le tapis.
Il faut être drôle pour détendre un peu l'atmosphère.
Oui, parce que sinon ça peut être vite long, barbant.
Voilà. Exactement, donc voilà. Et puis c'est quand même vu du monde entier, donc effectivement, C'est pas bon. Facile.
Ok. Donc après le strass et les paillettes, le phénomène du moment, c'est...
Alors, si je vous raconte une toute petite histoire, l'histoire de John Form, qui est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare, habillée dans une robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais voilà, Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter. De quoi vous parle-je ?
D'Annabelle, non ?
Bien évidemment, Annabelle, oui, ce long métrage, film d'horreur qui fait la une en ce moment, non pas par la qualité de ce film, qui semble même être plutôt une purge, si on en croit certains spécialistes, je vais y revenir, mais parce qu'il a donné lieu à quelques scènes, on ne va pas dire d'émeute, mais en tout cas quelques scènes d'affolement dans les salles et de dégradation, voilà. Et donc le film a été déprogrammé dans plusieurs cinémas, notamment à Montpellier, tout proche. Donc voilà, je vais vous...
Mais pas du tout à Lyon. Hein.
Et d'ailleurs, pas du tout à Lyon.
Et les Lyonnais ont dit, chez nous, ça ne nous a pas posé de problème.
Bah, les Lyonnais sont des gens sages, ben oui, mon cher ça. Guillaume.
Et à Mende,
c'est bien pour ça que
je t'ai...
Alors, je ne crois pas qu'il soit déjà programmé.
Il n'est pas diffusé.
Non. Alors donc, l'historien et critique de cinéma Laurent Aknin... lui dit que ce phénomène est donc plutôt dû à la médiocrité de cette production. Annabelle est un film atrocement réactionnaire, avec une morale catholique faisandée. Il ne fait pas peur, il n'y a pas d'effet gore, il procure un sommeil de plomb, mis à part une seule scène. La critique du Figaro est tout aussi cinglante. Ainsi, le film estampillé d'horreur ne correspondrait pas du tout à ce que ses spectateurs escomptaient suite à une promotion agressive sur les réseaux sociaux, qui le vantait comme le terrifiant préquel de Conjuring, film d'horreur quant à lui réussi, sorti en 2013. Voilà, donc rien d'étonnant pour Laurent Aknin donc, que ce phénomène de mécontentement généralisé se soit produit dans les salles. Voilà, pour lui, les réactions violentes des adolescents lors des projections du film correspondraient donc à cette impression d'escroquerie. Il dit, si on met un produit fort en face des yeux des adolescents, il reste calme. Voilà, messieurs les programmateurs, vous êtes avisés. Et voilà, je ne voulais pas finir cette chronique sans un petit happy birthday. C'est un personnage de cinéma, je vais vous parler plutôt presse-papier, mais ça fait rien, c'est quand même au départ un personnage de cinéma. C'est les 80 ans du journal de Mickey cette année. Et cette semaine, ce mercredi, sort un collector de ce journal de Mickey, considéré comme un trésor de la presse française. Il est toujours à 80 ans dans le trio de tête de la presse jeunesse, avec une moyenne de 120 000 exemplaires en 2013. C'est un hebdo qui est édité par Disney Hachette Presse, qui n'est dépassé que par le mensuel J'aime lire et le bimestriel Super Picsou Géant du même éditeur, c'est vous dire.
Mais c'est vrai que le journal de Mickey, souvent les personnes, ils sont dans une émission d'entretien et tout ça, on entend toujours cette référence au
tout
journal
fait,
de Mickey, quoi.
Enfin,
y compris des personnes qui effectivement peuvent avoir un certain âge maintenant. Quoi.
Exactement, alors je ne vous ai pas livré de secret personnel, je vais le faire là, ça a en tout cas moi bercé mon enfance et j'ai une petite collection sympa de ces journaux de Mickey que j'achetais toutes les semaines avec beaucoup de bonheur.
C'est vrai que ça parle à tout le monde.
Ça parle vraiment à tout le monde. C'est ce que dit la directrice en disant que c'est vraiment intergénérationnel et que chacun arrive à trouver un personnage auquel il s'attache, que ce soit Mickey ou ses compagnons. Alors, le premier, ce numéro collector que vous pouvez trouver donc cette semaine comprend un fac-similé du premier numéro du magazine qui a été créé en France par Paul Vinclair, une révolution pour la presse jeunesse à l'époque. Pour la première fois, les dialogues des bandes dessinées apparaissaient sous forme de bulles et non de textes à lire sous l'image. Le succès a été massif avec plus de 500 000 ventes par numéro.
Hein, c'est énorme.
C'est énorme, exactement. Voilà, c'est un magazine qui a été interrompu entre 1944 et 1952. C'est le journal préféré des 7-12 ans. Et on peut vraiment dire qu'il n'a pas pris une ride, même si aujourd'hui, il n'y a plus que deux petites rubriques, l'énigme de la semaine et les petits boulots de Donald qui soient dessinés en France, le reste étant fait dans les autres filiales des fonds Disney. Voilà. En tout cas, ben je
vais te ruer sur ton...
Je vais me ruer sur mon journal de Mickey. Alors figurez-vous, je ne veux pas cafeter, mais hier à Marvejol, il n'était pas encore arrivé. Ce que je trouve ça... Enfin, je trouve ça, voilà, on est un peu ravitaillé par les corbeaux. J'espère qu'il y sera aujourd'hui, parce qu'autrement,
pas vrai.
Je vais passer une très mauvaise soirée.
On serait mignons tous les trois, quand même, avec notre journal Mickey.
Ah, exactement. Et donc, je vais juste vous dire ce que... Enfin, vous lire ce que dit Anne-Marie Labini, qui est la directrice générale de Disney Hachette Presse, pour expliquer cette longévité. Donc, elle explique que la durée de vie exceptionnelle du journal de Mickey repose sur son contenu qui mélange la bande dessinée, au moins 50% de la pagination, avec des dossiers, des reportages, des fiches encyclopédiques, des aides aux exposés et de nombreux jeux. Mais l'actualité est aussi présente avec des pages cinéma et musique, mais aussi des pages explicatives comme « C'est quoi les municipales ?» par exemple. Voilà. Autre force du titre, des personnages très connus qui plaisent donc à toute la famille. Le magazine est intergénérationnel, dit cette brave dame. Voilà, donc,
C'est vrai que c'est ludique et pédagogique. Voilà, c'est peut-être bon pour l'éveil de l'enfant,
exactement.
Son développement.
Et depuis, beaucoup de magazines jeunesse ont repris ce mixte de choses ludiques et en même temps éducatives. C'était vraiment un précurseur. Malgré tout, et malgré ces 120 000 exemplaires qui feraient rêver bien des magazines, les ventes sont quand même en baisse. Et pour relancer un peu la machine, les équipes publieront la semaine prochaine, je vous l'annonce, une nouvelle formule avec plus de visuels et encore plus d'humour. Et donc cette directrice d'Hachette Disney Presse précise « Nous assumons totalement ce positionnement et sommes fiers d'offrir une bulle où les enfants peuvent s'évader au quotidien ». Voilà, autre nouveauté en parallèle, le lancement d'un site internet, bien évidemment, maintenant c'est incontournable, comprenant des actualités courtes et des jeux vidéo Disney. Voilà.
On vend quand même un peu les produits de la maison.
Eh bien, il faut bien, et une partie des contenus reste toutefois réservée aux abonnés du journal, qui compose presque 80% des ventes. Hein, donc c'est surtout dans la boîte aux lettres qu'on trouve le journal de Mickey. Voilà, donc je ne voulais pas finir cette chronique cinéma sans faire ce petit happy birthday qui me semblait sympathique. Et je voudrais vraiment finir en restant sur le cinéma et sur les enfants pour juste vous signaler que il y a un des cinémas de Lozère qui est très attentif au très jeune public et je trouve ça assez sympa. C'est le Ciné-Théâtre de Saint-Chély. Alors je sais que Samuel Le Cabec, qui en est le directeur, sera l'invité du MAG la semaine prochaine, il en parlera sûrement. Mais je voulais signaler que très régulièrement, il fait des ciné-goûtés. Alors le ciné-goûté, c'est une formule pour le très jeune public. Donc vraiment le très jeune public.
À partir de quel âge ? 3 ans ?
À partir du moment où votre enfant peut regarder la télé. Et...
Donc c'est quoi, c'est 3 ans ?
3-4 ans ? Ouais, 2 ans et demi, 3-4 ans.
Ça dépend peut-être un petit peu des films
voilà.
aussi qui sont
Alors,
projetés.
La formule, c'est 30 à 40 minutes de petits courts-métrages à arrêt d'essai, donc de grande qualité sur un thème donné, et suivi d'un goûter offert par le cinéma. Donc, ces vacances scolaires qui arrivent, vous pourrez aller voir Les Drôles de Créatures. C'est donc cette série de petits courts-métrages. Mardi 21 à 16h20 et le mardi 28 à 16h15. Et ce sera donc suivi d'un goûter pour le prix d'une place de cinéma et pour éduquer nos enfants à l'image. Je trouve ça plutôt sympa et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que c'est une très belle expérience familiale. Voilà, je voulais finir comme ça. Et j'étais un peu comme Guillaume. J'avais envie de vous faire garder le sourire. Donc, il avait pris Happy. Donc, moi, j'ai choisi Stromae. Stromae qui sera en concert à Montpellier mercredi prochain. Ne vous précipitez pas. Bien sûr, c'est complet depuis des mois. Mais en tout cas, ça sera sûrement un grand moment. Et comme Stromae n'est pas toujours quand même tout rose, j'ai choisi une chanson qui pétille avec « Allez, on danse !»
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, dit monde, dit famine, dit tiers-monde, qui dit
fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et ça zig, tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Eh ben y'en a encore.
Et voilà, moi je crois que effectivement vous retrouverez Samuel Le Cabet dans quelques numéros du Mac, parce que je crois qu'il n'est pas disponible la semaine prochaine. Mais voilà, donc vous le retrouverez pour parler justement aussi de toute l'offre du ciné-théâtre de Saint-Chély. Alors ben, forcément, c'est la fin de cette émission.
C'est fini. Sniff, ça passe trop vite.
Oui, j'ai loupé la virgule.
Ah mais tu vois, on n'en veut pas ça, ta virgule. Pas. Bon.
Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi. On vous rappelle que cette émission est rediffusée le mardi à 18h11 et le jeudi à 12h30. Passez une bonne quinzaine et on vous dit à bientôt.
À bientôt Guillaume, à bientôt Anne-Marie, à bientôt à tous.
Actuel, elle et lui. FM.